Vibrant, vibrante. Le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non. Bon, alors, avec... ça commence fort, parce qu'on commence par un fou rire, c'est assez drôle. Non, avec Carole, on est hyper excités de faire ce podcast, cet épisode. Alors, parce que ça fait plus d'un an et demi qu'on devait le faire, donc comment vous dire qu'on est hyper préparées toutes les trois. Je dis toutes les trois, parce qu'on accueille Axel Djendjik.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Carole, bonjour Laura.
Alors il fait très chaud Axel, petit aparté.
J'en veux
donc vous allez peut-être entendre des bruits d'éventail, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il fait chaud dans le studio. C'est amusant Axel parce qu'on s'est rencontrés ici même à Grande Contrôle, il y a 2 ans, 3 ans, parce que tu faisais un atelier qui s'appelait Jouir. Et moi, ça m'avait transformée, chamboulée. On avait pu échanger après et je m'étais dit mais... waouh, il faut qu'on t'écoute, vraiment. Et du coup, on se retrouve là dans le studio, parce qu'entre-temps, on a créé avec Carole ce podcast sur la sexualité. Peut-être que c'est grâce aussi à ton atelier qu'il y a des choses qui ont déconnecté et que je suis aujourd'hui aussi en train d'en parler au micro. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mais donc avant tout, je raconte un peu trop ma vie. Peux-tu te présenter, Axel, parce que tu as 1 milliard de casquettes?
Alors, elles se restreignent maintenant, parce que je commence à pouvoir tout rassembler. Donc, je suis autrice afropéenne. Je suis également podcasteuse, comme tu viens de le dire. J'ai créé 3 podcasts en l'espace de 3 ans.
Pas mal.
Donc, ouais, c'est pas mal. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Je me suis dit, ah ouais, meuf, quand même. Donc, un premier qui s'appelle Mima Sex and I, qui est consacré à l'intimité de femmes noires. Et qui était le tout premier du genre dédié à cette thématique. Et je crois que c'est encore le seul, en fait, au jour d'aujourd'hui. Un second, l'automne dernier, donc en novembre 2020, qui s'appelle « La fille sur le canapé » et qui porte sur les violences sexuelles sur mineurs au sein des communautés noires. En l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'était aussi la première fois que quelqu'un qui était concerné directement par cette question choisissait le podcast pour en faire un programme. Et c'était et ça a été quelque chose de très fort à accomplir. Ça a été produit par Nouvelles Écoutes. Et cet été, j'ai écrit un podcast qui s'appelle « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé », qui a été diffusé sur France Culture et qui porte sur les féminismes noirs des années 60 à nos jours. Et c'était l'occasion surtout de confier l'histoire de ma maman et des libertés auxquelles elle m'avait, moi, permis d'accéder avec les choix qu'elle a faits.
C'est un énorme programme. Je ne sais pas comment on va tenir en moins d'une heure cet épisode. Mais en tout cas, on avait choisi de l'intituler « Se reconnecter avec son intimité ». Et on aimerait tout de suite reposer la définition d'intimité, Carole, parce que intimité n'est pas que sexualité.
Oui, parce que j'ai pris la peine de regarder ce qui se passait sur Google quand on parlait d'intimité. Et on est toujours sur la vulve, le vagin et toutes ces choses-là. Et c'est en plus très féminin. Et que l'intimité, qu'on soit homme ou femme, on a de l'intimité. Hein, on est d'accord. Donc, voilà, je tiens à cette précision parce que le podcast, il ne va pas parler de l'intimité féminine, notre vulve, notre chat, on l'appelle comme on veut, notre caption du clitoris et compagnie. Donc,
oui, ce n'est pas génital, en fait, l'intimité.
Exactement.
C'est tout ce qui a trait au lien qu'on entretient avec notre entourage, et tout ça est a une incidence sur ce qu'on appelle l'intimité. Moi, c'est à cet endroit-là que je le place, en fait.
Mais oui, puis c'est sur soi, notre connaissance de soi, et qu'est-ce qu'on peut en dire à l'autre une fois qu'on se connaît, quoi.
Absolument.
Et bah maintenant, on a les bases. Donc maintenant, on peut commencer. et c'est vrai que moi, j'aimerais revenir sur ton histoire, Axel, avant d'aborder ce sujet-là de la connexion à l'intimité. Parce que toi, tu fais ce choix-là de te centrer, de parler de ton histoire pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Et je ne sais pas si tous les auditeurs et auditrices te connaissent. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques.
Alors, il me semblait, moi, impossible d'aborder certaines questions sans d'abord dire de quel endroit je parlais, en fait, aux gens. Parce que tu peux arriver avec... en disant que voilà, tu penses que l'instruction c'est important, mais c'est pas pareil de dire cette phrase et d'expliquer que ta propre mère n'a appris ni à lire ni à écrire parce que dans la tradition dans laquelle elle a grandi, ce n'était pas quelque chose qui était accessible aux filles dans l'espace dans lequel elle était, et que cette chose-là a une incidence par la suite sur la femme qu'elle est devenue et la mère qu'elle a pu être pour toi. Et ça a une incidence telle qu'elle a choisi, quand toi tu avais 6 ans, de t'envoyer en France pour que tu aies accès à cette instruction dont elle avait été privée, tellement c'était quelque chose qui lui importait. Donc quand tu livres le récit plutôt comme ça, c'est moins didactique que de dire l'instruction des filles, c'est important, voici les chiffres dans le monde, etc. Je pense qu'il faut incarner les choses. Et surtout, moi, la chose qui me réconforte surtout, et je pense que c'est la raison pour laquelle je continue à le faire, c'est que ça permet tellement aux autres de livrer leur propre histoire. C'est incroyable. À chaque fois que j'ai l'occasion, moi, de le faire... Les discussions qui s'en suivent avec des gens que je ne connaissais pas une heure avant ou deux jours avant sont mais tellement enrichissantes, et tu te rends compte que tout le monde est désireux en fait de livrer son récit, et qu'à partir du moment où on livre le récit respectif, on se rend compte des passerelles qu'il y a, des ponts qu'il y a à faire, de tout ce qu'on a en commun, alors que le reste du temps le mot d'ordre, en fait, c'est de nous séparer le plus possible, quoi. C'est d'accentuer les différences de toutes les manières possibles et imaginables. Et moi, j'arrive avec ce récit-là à propos de ma maman. Et ce récit-là à propos de ma maman, il touche plein d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec ma sphère culturelle non plus, en fait. Et ça permet aussi à des femmes qui ont eu des mamans qui, elles, ont eu accès à l'instruction, qui ont été peut-être les premières de leur famille à faire certaines choses, de se dire... Putain, je m'en étais pas rendu compte, quoi. En fait, quand je t'écoute, je m'en étais pas rendu compte.
Mais on n'ose pas livrer son histoire parce que on va se faire juger. On en est toujours là, tu vois. C'est de se dire pourquoi on se fait juger. Moi, le métier que je fais maintenant, ça raconte mon histoire d'avant. Et à chaque fois, c'est un jour, on me dit mais pourquoi, pour quelle raison t'as fait ce métier? Et j'ai dit, attends, je ne sais pas répondre. Et un jour, je dis, ah oui, je sais répondre. Mais évidemment, c'est l'histoire de mes parents qui m'amène à faire ce que je fais maintenant et d'être incarnée dans ce que je fais, quoi. Mais c'est que ça demande du temps parce que tu vas être jugée. Parce que, en plus, dans le métier que je fais, c'est quoi? Je suis sainte ou une salope? Encore.
Tu es une femme. Donc, à partir de là, si tu veux. Voilà. Donc, en plus, t'as choisi, toi, d'accentuer le truc. T'es sexologue, quoi. Ouais. OK. mais tu vois, c'est ce truc-là. C'est important, ce paramètre du jugement, parce qu'on est les premiers à se juger soi-même, en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'on n'arrête pas de faire ça. On le fait à l'encontre de nous-mêmes. Et du coup, on le fait avec les autres. Et on se pourrit tous la vie avec ce truc.
Ouais. À un moment donné, il faut dire... Stop, arrête. Arrête l'hamster qui pend dans ta tête et sois là, ce qui se passe, et arrête
le hamster, arrête la personne qui se flagelle, arrête celle qui croit que il faut être comme ci ou comme ça pour rentrer dans les codes. Non, en fait, un peu plus d'indulgence avec nous-mêmes, ce serait pas mal. Moi, c'est ça que j'ai appris. Et c'est probablement le truc le plus précieux que j'ai appris, parce que j'étais pas bien partie. À ce propos-là, je n'étais pas bien partie.
C'est l'environnement, c'est sociétal, hein, qui quoi qu'on fasse, on est toujours jugé, mais par rapport à des normes lesquelles on ne sait pas d'où ça vient, quoi.
Ce qui est assez incroyable aussi, c'est que quand on commence à raconter son histoire, on se dit ça y est, je vais avoir une étiquette, ou je vais être jugé, ou est-ce que j'ai le droit de raconter mon histoire, parce que en fait, peu importe l'histoire, mais soit je suis victime ou quoi que ce soit. Et quand on commence à la dire, on n'est jamais aussi fort parce qu'on est vulnérable. Et en fait, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est qu'en fait, tu racontes ton histoire et t'as des tas de personnes qui viennent te voir et qui reprennent le pouvoir sur leur histoire. Et ça, je trouve ça assez incroyable, cet effet de... Finalement, l'intime, OK, il est en soi, mais il se partage aussi.
Il se partage, il est ce que nous avons en commun. Et il est, en fait, c'est une source de force infinie. Contrairement à ce qu'on nous dit, on nous apprend toujours que c'est là où on est faillible. Qu'il faut pas, tu vois, l'intime pour moi, c'est par exemple des mots d'ordre comme il faut pas pleurer parce que sinon on va t'écraser, enfin, faut pas montrer que tu peux être faible, faut machin et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tu ne touches jamais autant les gens qu'en faisant montre de vulnérabilité.
La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, hein.
Bah
c'est
ouais,
c'est une force
quoi. Mais c'est parce qu'on nous apprend.
Ouais.
On nous apprend à confondre les deux. C'est tu vois exactement. Comment on t'apprend à confondre l'obstination et la ténacité. Mmh. C'est pas la même chose. Donc, il y en a un qui est source de stress, mmh. et puis l'autre qui part, tu vois, de la vision que tu as à un moment donné, à un instant T, de toi-même, de ce que tu peux, enfin, de ce que peut être ta contribution au monde. Mais c'est vraiment ça. Enfin, tu sais, quand tu dis tout à l'heure que c'est sociétal, en fait, car on est la société, nous en sommes, tu vois, on est à la fois le problème et la solution. Donc, dans quelle mesure est-ce que chacun d'entre nous, on prend part à ce putain de problème, pardon.
On peut dire ça, il n'y a pas de souci, Axel.
Mais Axel, justement, on est là toutes les trois à vouloir sortir de ça de s'unir pour dire, on est vulnérable, on est ce qu'on est et c'est OK avec ça.
Ouais. Et rejoignez ma team, en fait.
Et rejoignez ma team. Voilà. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est, plus nos rangs seront grands, et plus, en fait, on mettra un terme à ce qui est ce qu'on appelle la norme, enfin, la codification qui nous fait tous souffrir, en fait. Parce qu'il n'y a pas. Enfin, cette norme, elle ne parle que d'un certain nombre d'individus qui l'imposent. Quelque part, au plus grand nombre, c'est quand même assez fou à un moment donné qu'on se laisse faire comme ça. Il y a un truc qui ne va pas.
Ça sent la révolution là dans le studio.
Putain, hein. C'est non, bien. Mais justement, tous ces podcasts, toutes ces choses qu'on le fait, c'est pour regrouper ces gens qui viennent nous rejoindre.
Mais ouais, c'est ça. Exactement. Et je pense que c'est comme un maillage. Tu vois, pour l'instant, on ne se voit pas tous. Mais chacun, chacun dans son coin est en train de tisser la toile et tout. Et à un moment donné, on va regarder, on va se dire, mais putain, et là aussi, et là. Et ça paraîtra moins bizarre. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas une vue globale, mais non. On est tous en train d'essayer de s'extraire de ça, parce qu'on est, ça nous rend tellement malheureux.
Et toi, justement, Axel, pour revenir sur les podcasts, parce que tu es aussi autrice. Moi, je t'ai découvert à travers Me, My Sex and I. Qu'est-ce qui a fait, parce que c'est de l'écriture, bien sûr, que ce soit qu'on lise ou qu'on entende, c'est de l'écriture. Mais qu'est-ce qui a ce palier de se dire ma voix qui porte mon histoire. Enfin, parce qu'on parle de se reconnecter à l'intimité. Il y a écrire, bien sûr, mais il y a aussi prendre place avec sa voix, c'est un engagement qui est différent. Comment tu as franchi ce gap-là ?
Alors, moi, j'ai biaisé au départ. Regarde, Me, My Sex and I, je donne la parole à d'autres femmes.
C'est vrai.
Et tu n'entends pas mon histoire. Mais si tu écoutes bien celle qui témoigne, tu as des bribes de mon histoire. Ouais. Voilà, les gens qui me connaissaient, en fait, eux, avaient tout à fait détecté le truc. Et il s'avère que la saison, la première saison est enregistrée et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de gens me disant « Mais vous, c'est quoi votre histoire ?» On aimerait bien savoir comment est-ce que vous en êtes venu à cette initiative. Pourquoi est-ce que vous pouvez interroger les gens comme vous les interrogez? Pourquoi elles se livrent à vous comme elles se livrent à vous? Enfin bref. Et tu vois, ça commence à mariner un peu dans ma tête et je suis genre « Bon, il y a un moment, meuf, tu vas pas pouvoir... » contourner ce truc-là plus longtemps, parce qu'en fait, les gens t'en demandent quand même un peu plus, là. Et j'avais déjà livré, en fait, par bribes, de ci, de là, au gré des interviews, au gré des années, des morceaux de cette histoire. Et puis, je sais pas, l'effet confinement, je pense, comme beaucoup de gens, m'a permis de vraiment me dire ok, j'y vais. Mais juste avant en fait que le confinement ne débute, j'avais pris la décision de m'emparer de cette question des violences sexuelles au sein des communautés noires, parce que c'était vraiment un truc, moi, depuis l'émergence de MeToo, où je m'étais dit, j'en peux plus que dans cette communauté on ne parle pas de cette question. J'attendais mon podcast. J'attendais que quelqu'un d'autre. J'espérais désespérément que quelqu'un allait le faire. Et je voyais les mois passer et j'étais là genre, mais il y a vraiment personne qui veut y aller, quoi. Et il y a un moment où tu dis, ouais, tu sais quoi, fais le truc, ouais, vas-y, saute, quoi. Et en fait, je propose, le brief, je l'ai proposé une première fois, et c'est drôle d'ailleurs, parce que je le propose une première fois, vraiment, sous forme de récit personnel, chez Arte Radio, en 2017, et je le propose genre 6 semaines avant que MeToo explose, avant que MeToo advienne. Et j'ai droit à un refus, me disant que, les mots sont... qu'ils trouvent ça très dur et qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que des gens iraient écouter ça.
Waouh,
c'est dur.
C'est un souvenir qui est remonté il n'y a pas longtemps en plus. Donc, voilà. Et donc, du coup, je range le truc. Et puis, je vois tout MeToo se dérouler et tout, genre rien. Et je me dis, ok, cette fois, tu y vas, donc je le repropose à nouveau, cette fois, chez Nouvelles Écoutes. Et en fait, à l'époque, c'est Laura Cuissard qui est en charge de lire les projets. Et Laura, quasiment tout de suite, me dit, écoute, viens nous en parler, avec l'aval de Lorraine Bastide. Et ça se fait vraiment rapidement. Ce que j'ignore, moi, c'est qu'au moment en fait où je le propose, eux sont en train de travailler sur Intime et Politique, ils s'apprêtent à le lancer, et ils ont déjà et Ovidie et Océan, et il leur manquait le troisième reportage. Donc moi, je balance mon truc, mais pile poil au moment.
Au bon moment,
quoi. Donc voilà, et donc c'est décidé, c'est défini comme ça. Et il se passe un truc très drôle, c'est qu'entre le moment où ils me disent « oui, on y va, on le fait », et le moment où vraiment on doit démarrer la prod, il s'écoule à peu près 6 mois. Et moi, je suis un peu en mode... c'est pour plus tard, quoi. Et puis le plus tard arrive. Et le plus tard, c'est début février. Et c'est genre... Ah ouais, putain, c'est pas vrai. Ok, il va falloir... Et en même temps, c'est super drôle parce que je m'aperçois que... Je l'ai toujours préparé, ce podcast, en fait. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Je
connais
les textes, ouais. Les textes, je les trouve en 3 secondes. Enfin, je sais, en fait. Parce que ça fait longtemps que je le porte et qu'il faut qu'il sorte. Et ce qui n'est pas prévu, c'est le Covid.
Parce que c'est un peu ça, la vie, en fait. Hein. C'est vraiment ça, clairement, Léo.
Oh, putain. C'est le Covid. Et en même temps, je m'aperçois que quand le truc survient, je m'aperçois à quel point je suis attachée à ce projet, en fait. Que je veux qu'il se fasse. Que je ferais tout pour qu'il se fasse. Et je pense que l'univers m'entend, en fait, à un moment donné. Parce que début mars, c'est compliqué, en fait, d'imaginer que ça va pouvoir se faire.
Parce que du coup, pour expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, c'est un documentaire où tu es allée dans des endroits, où tu as rencontré des personnes.
Où j'ai rencontré... Alors, on est 6 à témoigner dans le podcast. Il y a donc moi, qui suis votre fil rouge tout le long. Et puis, il y a 5 autres témoins. Qui ont entre 17 et 46 ans et qui racontent chacune à leur tour sans être interrompues dans les 5 premiers épisodes, ce qui leur est arrivé. Et le tout est émaillé de textes littéraires qui sont des textes des autrices noires qui, moi, m'ont aidé à traverser cette épreuve-là quand ça m'est arrivé. Et il y a également dans les 6e, 7e, 8e épisodes des expertes que moi je suis allée rencontrer, qui permettent aussi d'éclairer cette question d'un autre point de vue. Donc vous pouvez ou choisir d'aller directement écouter, enfin il faut toujours écouter le premier épisode parce que c'est vraiment celui qui contextualise tout, et vous pouvez aller directement au 6e épisode et éviter les témoignages, parce que les témoignages sont vraiment brutes, en fait. Et ils sont brutaux aussi. Mais je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'en fait, j'ai toujours envie de dire aux gens, nous, on vous demande juste de nous écouter. Alors imaginez-nous ce qu'on a vécu. Donc faites un effort.
C'était important pour toi que ce soit livré tel quel,
oui,
et que ce soit entendu.
Ah, c'était le deal. Dès le départ, j'avais prévenu qu'il était hors de question que ce soit saucissonné, en fait, comme ça aurait pu être monté autrement, parce que cette parole-là, déjà, elle est précieuse. Elle n'existait pas, en fait, au sein de nos communautés. Et c'est tellement important. Moi, je connais la magie, enfin, de la parole qui répare, de te dire que quelqu'un a pris le temps de t'écouter, de te laisser dérouler, et que ça compte, en fait, quelque part.
Bien sûr.
Et en plus, tu vois, elles m'ont quand même fait le cadeau précieux de me faire entièrement confiance. Moi, je fais un appel à témoins quand même. Je ne connais aucune des jeunes femmes que vous entendez. Aucune des jeunes femmes et aucune des femmes que vous entendez, je ne les connais pas avant de lancer ça. Donc, elles y vont parce que c'est moi. Et parce que je leur donne des garanties. Et aussi parce que je suis concernée. Je pense aussi que les interviews ne se passent pas de la même manière, parce qu'elles savent qu'elles ont affaire à quelqu'un en face qui sait. Et que je ne me permettrai pas de poser certaines questions. Il y a bien des questions que je ne peux pas... Je n'ai pas à les poser parce que je connais les réponses. Mais vous allez avoir les réponses à ces questions que vous vous posez d'une autre manière, parce que je vais emmener ça d'une autre manière. Je vais le permettre. Elles vont pouvoir le dire plus loin dans l'entretien. Et on s'est soignées les unes les autres, je crois. Et du coup, c'était...
Une manière de penser l'intime.
Ah, plus que ça, même. Pour moi, c'est retrouver le pouvoir, en fait. C'était une manière de leur rendre le pouvoir, de retrouver moi aussi du pouvoir. De retrouver le pouvoir de la narration, en fait. Parce que c'est nous qui disons l'histoire. Et cette histoire, elle fait partie de nous. On pourra jamais passer outre. Mais on la partage avec vous en nos termes. Personne ne la reprend et personne ne l'instrumentalise. Et surtout, ça reste pas le récit de l'agresseur, en fait. À la fin, moi, ce qui était important, c'est que vous sachiez qui elles étaient. Et normalement, je crois qu'à la fin, vous percevez toute l'humanité et qu'elles sont pas que ça, qu'elles sont pas que cette violence-là, en fait. C'est un instant T dans nos vies, mais c'est pas ce qui nous définit pour le restant de nos jours, en fait.
Heureusement.
Bah ouais, mais tu sais quoi, il faut le répéter tout le temps, ça.
Oui.
Ça reste encore mal vu, parfois, de dire ça. On est censé pas trop se relever. On n'est pas censé transformer ça en pouvoir ou en lumière. Ou ça paraît, voilà, il faudrait qu'on reste discrète. Et puis qu'on se taise, surtout. Qu'on garde ça pour nous.
Mais justement, grâce à ce que tu as fait, ce qui permet des retours, quand je fais écouter à certaines de mes patientes, tu vois, d'un seul coup, elles se disent « Ah, je suis pas toute seule. »
C'est pour ça aussi.
C'est important. Je suis pas toute seule. Il n'y a pas que moi. Bah, du coup, je peux en parler.
Mais tu sais que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Je suis pas folle. »
Oui.
C'est la première qu'elles disent. Vous avoir écouté, je me suis rendu compte que j'étais pas folle. Tu te rends compte à quel point ça veut dire qu'on a internalisé le truc au point de croire que c'est nous qui sommes folles.
Bah, y a beaucoup de culpabilité. Hein.
Ouais.
Et puis de non-dit. Donc à partir que le non-dit est présent, on ne sait pas sur quoi se raccrocher.
Ouais. Donc parler, quoi qu'il arrive, c'est libérateur. Je crois profondément.
Première étape.
Ah, pour moi, c'est...
Écrire et parler. C'est
écrire et parler, oui. Quel que soit l'outil que tu choisis. En tout cas, l'exprimer, enfin, le transformer en quelque chose, en fait, qui est ta narration. Choisis la narration qui te convient.
moi, l'écriture, voilà, la lecture, l'écriture, et maintenant le podcast, ça fait partie de tout ce processus, en fait.
Et il y a besoin, justement, de les...
De les agencer, voilà. Et je me rends compte, ouais, que je suis en train de réunir tout ça. Ouais.
Comme un joli arbre.
C'est ça.
Oui, puis c'est surtout, on peut dire, mais il faut trouver les personnes qui, en face, accueillent dans toute bienveillance, qui ont une écoute sincère, qui savent accueillir. Sans jugement, juste être présent à l'autre.
Présent à l'autre, et puis qui ne vont pas s'approprier ton histoire non plus. Et avoir les solutions pour toi.
Ah oui.
Tu sais. Moi, vous devriez faire ça. Et ça aussi, ça existe. Et ça, juste, t'hallucines un peu. Tu fais, mais non, en fait. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas venue te trouver pour ça, en fait.
Non, de toute façon, c'est tout ce qu'on a chacun nos solutions en nous.
Oui.
Et que...
Merci de le rappeler, en fait. Et que l'accompagnement devrait être de cet ordre-là. En fait, c'est t'aider à... Tu vois, déterrer ces solutions et tu vois, et te les approprier, quoi. Tu viens pas chercher un mode d'emploi, en fait.
Non, tu viens et donc on t'aide à trouver ta solution qui va te correspondre à toi et qui peut correspondre qu'à toi et pas à quelqu'un d'autre.
Toi, par exemple, Carole, quand tu as tes patients-patientes en cabinet, comment est-ce que tu orchestres ça, justement? T'as quelqu'un qui va... Enfin, c'est pas le bon mot orchestrer, mais comment tu... T'as quelqu'un qui arrive avec une problématique, et en l'occurrence sur ce sujet-là, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Parce que souvent, c'est des récits difficiles. Tu vas passer par l'écoute, par le conseil sur l'écriture, sur le dialogue.
Alors déjà, pour moi, ma première posture, c'est l'humilité. Parce que
Beaucoup, Carole. C'est déjà beaucoup.
Je sais pas, je peux pas, je n'ai pas vécu. Chacun a son environnement, son histoire, donc... Être en position humble, d'accueillir, toujours dans... Il n'y a pas de jugement, on est dans un cadre sécurisant, ce qui est là reste entre nous. Ok, peut-être des fois je ne suis pas dans la même culture des gens, mais du coup, expliquez-moi. Peut-être des éléments qui vous semblent importants. Pour que justement cette parole elle devienne fluide et de se dire ok, c'est votre histoire, elle vous appartient et vous avez surtout le choix d'en faire quelque chose et que ça reste pas au fond de vous-même et d'en faire quelque chose parce que cette énergie elle peut vous servir à faire quelque chose. Quoi, on sait pas forcément tout de suite, mais quelque chose. Moi, je conseille souvent beaucoup d'écrire. Écrire, parce que ça permet de mettre des ressentis et de voir ce qu'amènent ces ressentis et comment ils évoluent. De pas forcément garder ses écrits, parce que des choses, on sait pas où les mettre, on veut pas qu'on tombe dessus, enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis, au fur et à mesure, on voit comment la personne a envie d'avancer, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle s'approprie. Et puis, il y a des moments, c'est tellement difficile que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment, ce sera le moment une autre fois. Et puis, et ça demande, je pense, de la patience. Mais c'est même pas pour moi, c'est pour l'autre personne de se dire...
Non, c'est le chemin de toute une vie. Hein.
C'est ça.
Il faut vraiment que les gens comprennent.
On n'est pas pressé. Non. Puis il y aura d'autres expériences qui vont arriver, qui vont refaire comprendre des choses, et puis encore une autre. Et tout ça, il faut savoir les accueillir. J'ai envie de dire, j'ai même les frissons quand je parle de ça, c'est les accueillir, mais dans ses tripes, quoi. Que ça ne reste pas dans notre intellect, ça reste dans nos tripes.
Le mot, c'est métaboliser tout ça. Et quand tu y parviens, tu peux repartir sur une nouvelle séquence, en fait. Moi, pour moi, c'est des séquences successives depuis ce jour-là. Et c'est des séquences où j'ai découvert ma capacité d'adaptation et j'ai découvert qu'elle était prodigieuse, en fait. J'en étais pas forcément certaine tout de suite derrière, ou même 10 ans après, ou même 20 ans après. La manière dont j'aborde cette question-là aujourd'hui à 50 piges, c'est pas du tout la même que celle que j'avais à 30 ans, même si à 30 ans, les gens me regardaient déjà en disant « Écoute, ça fait pas mal. » vu d'où tu viens, tu vois, mais bon.
Ce qui est compliqué à faire entendre aux gens au début, c'est que ce qui s'est passé, c'est terrible, il n'y a pas de mots pour décrire, et c'est injuste, il y a plein de choses, mais que de toute façon, on peut en tirer quelque chose de positif sur soi, et que ça va nous amener sur autre part. Mais comme c'est de l'inconnu, ça fait peur l'autre part. Et que du coup, d'être dans ce cadre sécurisant en disant bah, de toute façon, là, je suis présente, je vous lâche pas, quoi. Mais vous avez le droit de me quitter, enfin, vous avez le droit de.
Oui, de partir, de reprendre la thérapie plus tard, voilà. De la faire que pendant 3 mois et puis la reprendre dans 10 ans. Et c'est vraiment un travail au long cours. Ça va vous accompagner toute votre vie. Et en fait, vous êtes votre propre thérapeute, en fait. Et c'est à charge à vous de vous accorder assez d'intérêt pour faire ce chemin-là, accompagner toute votre vie, en fait. Et vous dire, mais ça va, en fait. Il y a des moments où j'ai besoin d'aide, et de frapper à une porte, et ça peut être de l'aide, ça peut être un soin énergétique, ça peut être enfin ce que tu veux.
Plein de choses.
Mais l'essentiel, c'est de rester à l'écoute de toi. Parce que oui, des fois, ça remonte. Quelle que soit la belle vie que tu... Voilà, des fois, ça remonte.
Moi, c'est ça qui m'avait vraiment impressionnée, Axel, quand tu avais raconté ton histoire. C'est la joie que tu mets aujourd'hui quand tu t'exprimes.
Ouais.
Et qui est extrêmement communicative, je te le dis. Parce qu'il y a cette chose-là aussi, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible, qui est difficile de se dire, bah, j'ai le droit, du coup, aujourd'hui, j'ai le droit d'être dans la joie, j'ai le droit d'être dans le positif, j'ai le droit d'avoir une sexualité positive et qui ne soit pas synonyme que de souffrance. C'est quelque chose qui est, j'imagine, très compliqué à mettre en place tout de suite, mais c'est comment on fait ensuite, voilà, l'étape d'après. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse et que, bien sûr, la solution est en chacun, mais l'étape d'après, justement.
Alors, je ne saurais pas exactement te décrire comment je m'y suis prise, mais c'est juste qu'à un moment donné, il m'a semblé que la plus grande chose que cet agresseur aurait pu me dérober, c'était ça. C'était la capacité à la joie et la capacité à la jouissance, en fait. Et comme moi, dans mon cas, ça s'inscrivait, en fait, dans une transmission transgénérationnelle. Où toutes les femmes de ma famille n'avaient jamais eu le loisir de choisir leur époux, en fait. Pour toutes, les mariages étaient contraints. Donc, pour ma mère aussi. Il se trouve juste que je ne suis pas la fille... Enfin, je ne suis pas la fille de l'homme qu'on l'a contrainte à épouser quand elle avait 12 ans. Moi, je suis comme, par hasard, la fille de l'homme dont elle est tombée amoureuse à 25 ans. Je suis la fille de l'homme qu'elle a choisi. Donc il y a quelque chose aussi, moi, dans mes gènes, qui fait que j'ai un côté disruptif d'emblée, si tu veux. J'ai quand même été conçue dans le choix, la jouissance, le plaisir et l'amour par eux deux. Donc déjà, je pense qu'il y avait un truc un peu rebelle de la part de ma mère qui m'a été transmis dans le tissu amniotique. Là. Et je pense qu'il y a peut-être ça, je rigole, mais je crois que ça a un peu joué dans ma faculté, enfin ma capacité à rebondir après ce qui s'est passé. Parce que j'avais l'impression que ça pouvait pas être mon identité, ce truc. Je ne pouvais pas être cette chose qu'il avait essayé de me faire devenir à ce moment-là. La vérité était ailleurs. Et surtout, moi, et je pense que ma grande chance, c'est surtout que je réalise, je comprends très vite que ce qui vient de se passer, c'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Je ne confonds pas les deux. J'ai 11 ans, mais je ne confonds pas les deux. Il y a un truc, parce que le truc est tellement brutal que ça n'a rien à voir avec du plaisir, en fait. Donc ça peut pas être, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais. Dans mon esprit, ça va pas.
Mais tu expliques très bien, très souvent, justement, il n'y a pas de plaisir et on sent qu'il y a que c'est violent, que c'est...
Ouais, c'est... Moi, je ne veux pas tout mon être, rien de mon être ne veut. Tu vois, et je... Donc, je sais que je ne veux pas, que je... Voilà, et même si, tu vois, mon corps avait fonctionné, même si j'avais eu des sécrétions, même si j'avais mouillé, même si... Je sais que je ne voulais pas. Je ne lui ai pas donné l'autorisation de faire ça. Et ça, non, enfin, voilà. Donc, je pense que ça, moi, ça me sauve beaucoup derrière du... ça ne ressemble pas à ça. Mmh. Ça ne peut pas ressembler à ça. Et j'ai de la chance, et tu parlais de l'écriture tout à l'heure. Moi, c'est la lecture d'abord. J'ai de la chance d'être un petit rat de bibliothèque. Donc, j'ai la capacité de m'enfuir dans un autre univers et surtout, j'ai la capacité d'aller m'informer et d'aller chercher les mots que je n'ai pas, en fait, pour mettre dessus. Et je pense que c'est ça, c'est aussi l'une des violences quand ça vous arrive à un très jeune âge. Et ça, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'à titre collectif, on s'interroge aussi là-dessus. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas correctement. Nous n'avons pas les mots, ne pas pouvoir mettre les mots sur ce qu'on nous fait, en fait. Comment tu veux savoir que ce n'est pas normal ce qui vient t'arriver quand tu ne sais même pas que tu es doté d'une vulve, en fait, et que quelqu'un peut y mettre ses doigts et forcer, quoi. Mm. Ses doigts et le reste.
Parce que ça vient toujours du fait que c'est quelque chose qu'on ne parle pas, qu'on ne parle ouais. pas en famille depuis petit, qu'on ne répond
parce que
pas
c'est
aux
sale.
Enfants.
Parce que voilà.
Parce qu'on appelle, on donne des petits noms. Des
zézettes.
Qu'on donne des noms qui ne veulent rien dire. Qui...
Parce que Michel Simest fait un bouquin sur... il y a 4 ans, sur le destiné aux enfants, sur leur anatomie, et que le petit garçon, il est dessiné avec tout ce qu'il faut, et la petite fille, elle a juste un trou pour faire pipi.
Ah bah oui.
Et toi, tu fais mal, il manque un truc, en fait.
D'avoir du plaisir.
Bah non, bah elle a surtout pas de clitoris. Et puis quand tu interpelles les gens derrière ce bouquin, en disant, alors bonjour, en fait, il manque quelque chose, là. En gros, on te répond, non, mais ils ont pas l'âge... On va pas leur parler de ça à leur âge. Et donc là, tu regardes tranquillement les gens. Moi, j'avais répondu. Hein, je l'avais pas aimé, ça. Et moi, j'avais répondu, ouais, mais c'est probablement la raison pour laquelle il y a 200 millions de jeunes filles, enfin de femmes excisées dans le monde aujourd'hui. C'est parce que ça sert à rien. Mais c'est exactement ce qu'on leur dit. Merci à vous d'être passés. Allez, à bientôt. Gardez la pêche.
Et c'est des gens très médiatisés.
Mais qu'est-ce que c'est, quoi, ce putain.
Non. Parce que, bien sûr que les choses, malheureusement, ne changent pas aussi vite.
Aussi vite qu'on aimerait.
Ouais. Mais c'est vrai que, moi, je sais que là, par exemple, je suis très heureuse de cette discussion tous les trois, parce que ces discussions, peut-être il y a 10, 20 ans, est-ce qu'on aurait pu, trois nanas qui parlent de chattes, de...
Si, dans nos soirées.
Dans nos soirées, voilà.
Dans nos soirées. Ouais. En général, après avoir bouffé et avoir picolé un peu, et c'était la meilleure partie de la soirée en général. On se marrait, mais on se tordait de rire. Et il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de podcast. Et je pense qu'on a raté des gros trucs quand même à cette époque-là.
Ben, c'est un vrai concept. Axel, je pense qu'on peut essayer de recréer cette soirée-là dans le studio la prochaine fois. On enregistrera à minuit.
C'est incroyable, quoi, ce que les femmes peuvent se dire à ce moment-là, quoi. Mais c'est rigolo, oui, de voir qu'aujourd'hui, on le dit d'une manière, d'une manière plus publique.
Ouais.
Mais c'est nos soirées, en fait.
Voilà.
Plus public et décomplexé.
Et décomplexé, ouais.
Et sans tabou.
Bah ouais, mais parce que l'enjeu est tellement grand maintenant.
Bien sûr.
C'est pas tout à fait la même époque qu'il y a 20 ans. Il y a des trucs qu'on n'avait pas vécu. Et je pense qu'on prend un peu la mesure de l'urgence aussi. Il y a une vraie urgence aussi à s'emparer de ces questions-là aujourd'hui pour vous faire gagner du temps. Tu vois, la génération à laquelle toi t'appartiens, par exemple. Ou moi, j'aimerais que vous soyez plus alignée et plus heureuse d'être vous-même plus tôt que nous l'avons été. Moi, je sais que j'ai aussi bataillé pour trouver mes marques et kiffer la personne que je suis. Mais ce qui me fait chaud au cœur, c'est que j'ai l'impression qu'à 29 ans, ma propre fille à la maturité que moi j'avais à 40, quoi. Et je me dis, oh putain, si on gagne 10 euros à chaque fois comme ça, ça va être bon.
Mais oui, c'est ça l'espoir. C'est pour ça qu'on fait ça.
Allez, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Et effectivement, quand je crois à certaines des gamines de 15, 17, là, des fois, j'ai un moment, je suis genre, putain, mais bonne chance à vous. Hein. Ça va être. Je crois que vous n'êtes pas prêts, hein, la génération d'après, là. La génération à laquelle nous, on appartient. Parce que les gamines, elles ont beaucoup moins le temps que nous. Hein. Moi, je vois des trucs, des fois, je fais... Ah oui, d'accord, donc elles se posent déjà ces questions-là. Et elles sont déjà en mesure de formuler ça, ça, ça. Ok. On va peut-être y arriver. Ouais. On va peut-être y arriver.
Ouais, en sachant que je trouve que la chose qui n'est pas encore très, très claire, c'est la notion de consentement.
Bah écoute, la notion de consentement, elle n'est pas très claire parce qu'on ne l'a pas rendue claire, quoi.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Non, mais...
Sans
rigoler, on est sur la notion de consentement. Moi, j'ai presque envie qu'on soit à l'étape d'après, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que une jeune fille soit en mesure de faire part de son envie, enthousiasme. Tu vois, je voudrais qu'on soit pas dans une posture où elle doit dire si oui ou non elle veut. Moi, je veux qu'elle dise ce qu'elle veut, en fait.
Que ce soit pas l'autre qui décide.
Non. Ça, c'est notre état d'après. On n'y est pas encore.
Non, on n'y est pas vraiment, non.
Mais avant ça, je pense qu'il faudrait qu'on arrive toutes à enlever ce cliché à travers les parents, hein,
ouais,
que nous sommes.
Oui.
En tout cas, est-ce que je dois être sainte ou je dois être salope? Non.
Peut-être. Ah, moi, j'ai réglé le truc. Hein. Moi, c'est ta mère la pute. Voilà. Voilà. Ta mère la pute, tu sais quoi? C'est ce que je suis. C'est pas ni l'un ni l'autre, je suis les deux en fait. Un être sexué qui est une mère, mais qui est un être sexué qui est une mère. D'accord?
Mais bien sûr,
l'être pas chier, quoi.
L'être sexué.
Pas mal, j'avais jamais...
Ta mère la pute, et tant qu'à faire, tu sais, c'est une insulte. Mais moi je te regarde en disant, mais l'insulte elle est où? Elle est où en fait exactement? Je comprends pas bien le délire.
Je pense que tous nos auditeurs et auditrices vont pouvoir réutiliser ça maintenant.
Non, mais attends. Qu'on arrête avec cette dichotomie, t'as totalement raison. C'est ce truc de la maman, de la putain. Arrêtons avec ce truc. C'est le fondement même des religions judéo-chrétiennes. Barrons-nous de ce truc, ça ne nous a jamais fait de bien. Jamais.
C'est clair. Et puis que du coup, plus nous, on sera dans...
Sexualiser. Ouais, exactement. Tu vois, aligné en fait, en tout cas, dans ce sexe qui est le nôtre au sens propre et figuré, plus on pourra aussi transmettre à nos filles une certaine fierté d'appartenir à ce, tu vois.
Alors moi, j'ai que des garçons, mais aussi à nos garçons, tu vois.
Oui.
Parce que du coup, ils ont un regard
mais voilà,
de la femme complètement différent.
Mais oui.
Tu vois, t'as le droit d'être tout, en fait, tu vois.
Mais c'est ça. Mais c'est toi qui l'incarnes. Ça commence avec toi.
Oh ben,
tu vois.
Je pense que je l'incarne.
mais ça a l'air... Tu vois, ça va de soi pour nous, parce que voilà, on a fait ce chemin-là. Mais avoir ces conversations-là avec des gens qui ont pas cette approche, c'est toujours extrêmement instructif, parce que tu vois vraiment la surprise dans le visage des gens, dans les yeux des gens, en mode ah ouais, non, en fait vous voulez vraiment faire la révolution, quoi. Tu fais ouais. Enfin. Alors moi, comment ça se passe?
J'ai un retour dans mon cabinet que je vous livre là, parce que c'est drôle. Certaines femmes me disent: en fait, quand je vous vois, soit sur mon site, il y a une photo, peut-être que je devrais la changer parce qu'elle d'aide. Elle me dit, je me suis dit que, en fait, avec vous, je pouvais parler de tout, en fait, que j'avais. Je dis, mais exact, je suis là pour ça, justement, qu'on puisse parler de tout, quoi.
Non, mais tu sais, ouais, le truc, j'ai souvent entendu, et ça faisait rire mes potes, parce qu'ils me regardaient en disant, mais je crois que t'es la seule meuf qui prend pas ça mal quand on entend cette phrase. Et j'étais genre, ouais, mais je vois pas pourquoi je le prendrais mal. Il paraît que j'avais les yeux qui sentent le cul.
Ah oui,
tu sais. Et toi, t'es genre, ouais, et donc après, on fait quoi? Donc. Et ça, quand tu fais ça, par contre, ça déstabilise.
Bah ouais, bah là.
Bah ouais. Par contre, si t'étais offusqué, si tu leur faisais un procès, c'est exactement ce qu'ils attendent. Ils attendent ça, le conflit. Par contre, quand tu les regardes en disant « Et donc ? Vas-y, viens, on en parle. Donc, ça t'évoque quoi, le cul ?»
Et puis alors là, ça
et alors là, t'as plus personne.
T'as plus personne.
Ah bon,
plus
pourquoi personne. Tu me réponds ça ? Pourquoi tu me dis ça ?
Mais voilà.
C'est un compliment que je te fais.
Non, tu vois, à un moment donné, il faut qu'on... Ces stigmates-là, il faut qu'on se les approprie, quoi. Donc, ta mère, la pute.
Donc, pour ta se mère, reconnecter avec son intimité...
Pardon, c'est excusez-moi maintenant. D'être passée, quoi.
C'est ça.
C'est génial, parce que je vois que là, on est... Et c'est pour ça que, enfin, moi, je suis super contente, c'est que l'intime, c'est tout ça. Mais c'est ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on écrit, ce qu'on a vécu, ce qu'on va écrire après. Et même si on est partis un peu toutes les trois, mais de toute façon, c'est toujours comme ça dans ce podcast, dans tous les sens, c'était quand même clair dans nos têtes. J'insiste. Et j'espère que ça vous aura donné les clés. En tout cas, Axel, je reviens l'année prochaine.
Bien sûr.
On fait l'étape d'après l'année prochaine.
Mais c'est ça. Okay. Voilà, on fait ça. On fait un point d'étape à chaque fois.
Super. Parfait. On a un rendez-vous annuel. Merci beaucoup, vraiment. Je vous dis à très bientôt. Et un grand merci, Axel. À très vite.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup, Axel.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.